africaine à l'université Lincoln en Pennsylvanie. Ce soir, il nous rejoint via Skype de Dakar. En direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU, et Will Jacob, chef d'entreprise et consultant média basé à Johannesburg. Il est le président exécutif de l'African Sports and Creative Institute, un organisme dédié à l'économie du sport en Afrique. Il séjourne en ce moment à Paris. Alors, le décompte des voix est en cours ce jeudi en Afrique du Sud, au lendemain d'un vote qui s'est parfois prolongé tard dans la nuit. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant le week-end. La commission électorale n'a pas rapporté d'incidents significatifs. Pour les observateurs, le parti ANC joue son avenir dans ce scrutin. Will, vous qui vivez et travaillez en Afrique du Sud, la popularité de l'ANC a-t-elle effectivement chuté? Et si oui, pourquoi d'après vous?
Écoutez, je pense que oui, vous avez absolument raison. L'ANC a vécu deux grandes périodes, si vous voulez, dans la gouvernance du pays. La période post-apartheid, qui était plutôt une période positive avec une croissance, il y avait un énorme enthousiasme des populations. Et puis une deuxième période, qui est donc les 15 dernières années, qui est une période beaucoup plus difficile. Difficile pour plusieurs raisons, peut-être en mentionner trois principales. La première, c'est la croissance économique. Donc les gens souffrent économiquement en parlant. On parle de plus de 30% de taux de chômage, notamment chez les jeunes. La deuxième chose, c'est bien entendu la partie infrastructure, et dans l'infrastructure, je mettrais bien entendu les problèmes de coupure d'électricité, mais également d'eau, et qui sont accentués par le changement climatique. Et la troisième chose, je dirais, c'est la partie crime, la criminalité. Tout ça corrélé bien entendu par un leadership qui est assez pauvre malheureusement.
En tout cas, au cours des 30 ans de démocratie entamée avec l'élection du premier président noir, Nelson Mandela, en 1994, les Sud-Africains ont été loyaux à son parti qui a libéré le pays du joug de l'apartheid. L'ANC a toujours remporté les scrutins nationaux avec une large majorité, rassemblant encore 57% des voix aux législatives de 2019. Mais aujourd'hui, de nombreux Sud-Africains expriment leur ras-le-bol, on vient de l'entendre, et se tournent vers les partis d'opposition. Nyaka, que signifie cette situation inédite pour l'ANC?
Ce qu'on appelle en anglais et wake-up call. Cela pourrait permettre aux leaders de l'ANC de se réveiller, de s'ajuster, de chercher à régler des problèmes, les problèmes de subsistance de tous les jours. Mais il y a un élément important qu'il faut ajouter, c'est la dimension tribale de la politique en Afrique. Quand je vois les gens exprimer leur surprise, ce que je ne comprends pas, moi j'avais ressenti que Zuma, qui est un leader charismatique, qui était président de l'ANC et qui est un leader Zoulou, en créant son parti politique, il allait mobiliser les Zoulous, qui représentent la plus grande ethnie en Afrique du Sud. Et donc, dans son fief, il va naturellement faire réduire l'influence de l'ANC, et cela peut expliquer aujourd'hui pourquoi l'ANC pourrait perdre la majorité.
Jean-Victor, pensez-vous également que le chômage, l'immigration, la corruption, la criminalité record ou encore la faillite des services de base ont nourri cette désillusion croissante à l'égard de l'ANC? Y a-t-il d'autres facteurs qui n'ont pas été évoqués?
Il y a d'abord et surtout le facteur de l'histoire. À la libération de Nelson Mandela et avec les premiers gouvernements de l'ANC qui sont issus de l'ère post-apartheid, les Sud-Africains de toute race ont véritablement nourri beaucoup d'espoir et beaucoup de choses leur ont été promises. Des maisons, l'eau, l'électricité, une meilleure vie et une meilleure gouvernance. En réalité, c'est une très grande frustration de la part des Sud-Africains aujourd'hui. Donc ces espoirs ont été très largement déçus, parce que l'ANC est au pouvoir maintenant depuis fort longtemps. Et quels que soient les résultats, on va constater une chute et peut-être une montée de partis nouveaux, notamment le parti de Julius Malema et encore plus celui de l'ancien président Jacob Zuma. Mon frère Nyaka avait raison de souligner la dimension ethnique et régionale. Mais il faut espérer que l'Afrique du Sud va aller au-delà de ces pesanteurs. Mais il faut aussi saluer le fait que ce pays africain, ce pays très important du cône sud, de ce qu'on appelle les pays du Sud maintenant, et qui joue un rôle très important sur la scène internationale, va continuer sur la voie de la démocratie, car en Afrique, c'est plutôt à travers les urnes qu'il faut exprimer sa frustration, si frustration il y a.
Ouais. Alors, l'Afrique du Sud a été secouée à maintes reprises par des flambées de violences xénophobes, parfois meurtrières. 2,4 millions d'étrangers sont recensés dans le pays, dont beaucoup d'Africains en quête d'une vie meilleure. Will, vous qui avez des origines camerounaises et marocaines et avez vécu dans d'autres pays avant de vous établir en Afrique du Sud, qu'est-ce qui alimente ce ressentiment à l'égard des immigrants? Le manque d'emploi est-il là pour quelque chose?
Oui, absolument, vous avez absolument raison. Je pense que la première chose, c'est le manque d'emploi et bien entendu le chômage. Pour donner un chiffre, c'est vrai, vous l'avez dit, 2,4 millions de migrants. C'est un chiffre qui a triplé, sur les 30 dernières années. Il y a une augmentation de la migration, mais la migration, elle vient parce que, premièrement, l'Afrique du Sud était pendant très longtemps l'économie numéro un dans le continent. Donc c'est le poumon, si vous voulez, du continent. Donc le rayonnement de l'Afrique du Sud dépasse, si vous voulez, la zone australe. La deuxième chose, c'est qu'il y a des jobs également que certaines personnes sont prêtes à faire et d'autres ne le sont pas. Donc ça attise effectivement les jalousies, je dirais. Et puis c'est vrai que certains partis politiques, notamment de l'extrême, vont surfer sur cette vague de populisme et de xénophobie. Qui semble pour certains, notamment dans les townships et les personnes les moins éduquées, semble être des solutions premières.
Oui, et d'ailleurs, en avril dernier, le gouvernement a approuvé une réforme des lois sur l'immigration qui, si elle était adoptée, augmenterait le nombre d'expulsions. Le président Cyril Ramaphosa a promis de freiner l'immigration clandestine qui exacerbe de nombreux problèmes sociaux et économiques, selon lui. Niaka, quelle lecture faites-vous de ce sentiment anti-étranger dans ce pays qui est pourtant tenu en modèle en Afrique, voire ailleurs dans le monde? Des partis politiques, comme le disait Will, jouent-ils la carte xénophobe?
Avant de continuer, il y a Jean-Victor Nkolo qui a dit quelque chose de très important. Je pense que c'est par là même qu'on devait commencer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'ANC qui pourrait faire la majorité, mais il faut saluer la démocratie en Afrique du Sud. C'est un élément important là où les gens changent les constitutions en Afrique pour s'éteindre au pouvoir, ou là où la volonté populaire met des officiers au pouvoir. Le fait de voir la démocratie se faire comme elle se fait, où les populations votent les députés qui vont élire le président, c'est quelque chose de fabuleux, et cela se passe sur le continent africain, et on souhaiterait que cela continue ainsi. Maintenant, par rapport à la xénophobie, c'est quelque chose de malheureux, mais contrairement au co-panéliste qui a parlé, pas contrairement, en plus de ce qu'il a dit, je pense que c'est un manque de culture et puis de l'ignorance de la part d'une partie de la population sud-africaine peu éduquée qui estime qu'il faut s'attaquer, quand ils s'attaquent aux étrangers, ils ne s'attaquent pas aux Blancs qui ont pris une position en Afrique du Sud depuis 1652, mais c'est les Zimbabwéens, c'est les Nigériens, c'est les Ghanéens. Alors que pour des gens comme nous qui croyons au panafricanisme, oui, il faut arrêter l'immigration clandestine, mais en même temps, il faut que l'Afrique du Sud se situe comme ce pauvre panafricain qui veut faire avancer la cause de l'unité africaine. Il y a des gens qui utilisent cela et pour pouvoir exacerber les tensions et espérer avoir des dividendes politiques, et c'est malheureux. Et donc, c'est ce que je voulais dire.
Ouais. Et puis, autre chose, on évoquait tout à l'heure, le pays, puissance économique en Afrique, est touché par une grave crise de l'électricité, engendrant des coupures qui peuvent aller jusqu'à 12 heures par jour. L'entreprise publique Eskom, lourdement endettée, ne produit pas suffisamment de courant dans ses centrales vieillissantes et mal entretenues, qui fonctionne quasi uniquement au charbon. Jean-Victor, comment une telle situation peut-elle être perçue sur le continent et ailleurs sur la planète?
c'est une situation véritablement paradoxale, parce que beaucoup d'Africains ont d'ailleurs été attirés, comme le disait tout à l'heure mon frère Niaka, par le mirage, on peut l'appeler maintenant ici, sud-africain. Et c'est une situation paradoxale parce que l'Afrique du Sud a toutes les capacités et toutes les potentialités pour fournir à sa population tout ce qu'il faut. L'électricité, la culture du Sud a de très bonnes routes, etc., les infrastructures. Mais on ne comprend pas, il y a ce paradoxe-là. Donc comme il y a un paradoxe entre l'Afrique du Sud devenue puissance politique internationale, non seulement au sein des BRICS, mais aussi dans, par exemple, ses actions contre Israël dans la situation à Gaza, alors qu'à l'intérieur, il y a une véritable insuffisance dans la gouvernance, dans véritablement le jeu de la gestion de la cité. Donc il y a ces paradoxes qui font de l'Afrique du Sud en même temps une grande potentialité, mais aussi une déception réelle.
Et nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure. Voilà, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs à la suite de Washington Forum. Ce sera après cette courte pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Washington Forum, édition du jeudi 30 mai 2024. Gros plan sur les élections générales d'hier en Afrique du Sud. La commission électorale du pays dit s'attendre à un taux de participation plus élevé qu'en 2019. Pour nombre des 62 millions d'habitants, l'ANC, qui avait notamment promis l'accès à l'éducation, à l'eau et un toit pour tous, a failli à ses engagements. Un tiers de la population active est au chômage. La pauvreté et les inégalités vont croissant. La criminalité bat régulièrement ses propres records et le quotidien est empoisonné par des coupures d'eau et d'électricité récurrentes. Et les scandales de corruption impliquant des cadres du parti ont fini par éroder une confiance déjà largement entamée. Et maintenant, je vous propose deux de vos nombreux commentaires à Facebook. Toussaint Bagouma de Bukavu en RD Congo, eux les Sud-Africains, ils sont au moins sérieux en Afrique par rapport aux autres nations africaines. Et Léonka Eratus de Léré Mayokebi au Tchad, si l'ANC reconnaît ce recul, c'est bien. Et nous retrouvons maintenant nos invités. Et nous avons Niaka Lagoké, maître de conférence en histoire et en études panafricaines à l'Université Lincoln en Pennsylvanie. En direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU, et Wilm Gakop, chef d'entreprise et consultant média basé à Johannesburg. Il est le président exécutif de l'African Sports and Creative Institute. Ce soir, il nous rejoint de Paris. Alors, les jeunes nés depuis le début des années 1990 et qui n'ont jamais connu l'apartheid, appelés les « born free » ou « nés libres », sont les premières victimes du chômage qui touche plus de 40% d'entre eux. Will, comment la jeunesse sud-africaine a-t-elle participé à ces élections et que veulent-ils comme changement ?
Je pense qu'il y a deux choses majeures que la jeunesse africaine veut. Donc la première chose, c'est économiquement, ils veulent bien entendu des opportunités économiques, donc avoir une vue sur l'ensemble de leur carrière, sachant qu'aujourd'hui, vous savez, en termes d'éducation, c'est un cinquième du budget de l'État qui est dédié à l'éducation. Cependant, l'éducation peine sur certains points en termes de formation notamment. Donc la première chose que la jeunesse sud-africaine souhaite avoir, c'est des opportunités économiques. La deuxième chose qui me semble important de préciser, et notamment par rapport à la conversation que nous avons sur la démocratie, effectivement, l'Afrique du Sud est très fort d'un point de vue institution, et le modèle démocratique est tout à fait louable quand on compare au reste du continent. Maintenant, il y a quand même d'autres choses qu'il faut absolument mettre en lumière. La première chose, c'est la manque de confiance, la défiance, si vous voulez, de la jeunesse par rapport à la politique, d'où les taux de participation qui sont globalement faibles. La deuxième chose que la jeunesse aimerait avoir, et je pense que même on peut l'établir pour l'ensemble de la population, c'est d'avoir plus de pouvoir dans la sélection des leaders. Aujourd'hui, nous sommes plus dans une approche, pardonnez-moi, proportionnelle, donc en fonction de la représentativité des partis politiques. Là, ce qui serait intéressant selon certains groupes jeunes, c'est d'avoir la capacité à désigner le président de la République ou les leaders en local. Donc ça, c'est une deuxième approche de la démocratie, je pense qu'il faut absolument considérer. Et il y a des mouvements en local, je pense notamment au Rivonia Circle, qui sont des groupes de réflexion qui souhaitent proposer des nouveaux modèles de démocratie pour améliorer le système politique sud-africain.
Cyril Ramaphosa, l'actuel président âgé de 71 ans, voudrait obtenir un second mandat de 5 ans. Il a succédé en 2018 à Jacob Zuma, contraint à la démission après de multiples scandales. Nyaka, quel avenir politique pour Cyril Ramaphosa si l'ANC, dont il est actuellement le chef, perd sa majorité absolue?
Bon, tout le monde pense que si l'ANC perd la majorité, l'ANC va faire une alliance, une coalition avec les trois partis politiques, des Democratic Alliance, des IFF ou MK. Cela m'étonnerait que ce soit avec le MK. Cela serait possible avec le IFF. Si l'IFF arrive à avoir autour de 10% des voix, le Democratic Alliance, c'est un parti politique qui met l'accent sur le marché. Mais il y a des différences fondamentales entre le Democratic Alliance et l'ANC. Selon toute vraisemblance, Cyril Ramaphosa sera le président de l'ANC et il va seulement s'accommoder d'une certaine cohabitation. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour dire que si Ramaphosa veut se restaurer, ce qui arrive peut être une occasion pour jeter les bases d'une nouvelle gouvernance politique et économique en Afrique du Sud. Parce que oui, on parle des Noirs ou de l'ANC qui n'est pas en train de faire ce qu'il faut pour satisfaire les besoins des gens en Afrique du Sud. Mais il ne faut pas oublier que le capital, les puissances d'argent, notamment blanches, détiennent les forces vives de la production en Afrique du Sud. Et elles aussi, attribuées par des forces blanches, devrait chercher à faire en sorte que les problèmes de société soient réduits et que cela ne soit pas seulement de la seule responsabilité de l'État sud-africain. Et ça aussi, c'est une conversation qui n'a pas eu lieu au temps de Mandela, qui peut être aussi à la base de ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, quand je pense que la crise que nous voyons est une opportunité historique, que les leaders de l'ANC doivent saisir afin de jeter les bases d'une conversation ou une nouvelle conversation économique qui peut s'appuyer non sur le libéralisme, mais sur la philosophie Ubuntu, ou bien pour le moins une certaine forme d'économie Ubuntu.
Jean-Victor a évoqué cet aspect tout à l'heure. L'Afrique du Sud, fervent défenseur de la cause palestinienne, a saisi à la fin de l'année dernière la Cour internationale de justice qui a récemment ordonné à Israël de mettre un terme à son offensive militaire à Rafah. Pretoria est d'avis que l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza s'apparente à un génocide, ce que l'État hébreu rejette fermement. Jean-Victor, les résultats de ces élections auront-ils un impact sur le rôle de leader que l'Afrique du Sud veut incarner sur le continent et les positions qu'elle affiche sur le plan international, notamment dans les débats sur les questions de droits de l'homme et de justice internationale? Vous parliez de paradoxe tout à l'heure.
Tout à fait, Jacques, et cela est une excellente question, si vous me permettez d'ajouter. Il faut simplement d'abord commencer par rappeler les fondements historiques de l'action de l'Afrique du Sud. Pendant la lutte contre l'apartheid, des gens sont venus de partout et se sont joints à cette lutte épique qu'ont menée les Noirs contre le système de l'apartheid. Des gens sont venus du continent asiatique, de grands grands Indiens comme Gandhi ont d'ailleurs commencé leur action en Afrique du Sud. Et il y a eu beaucoup de militants et même de leaders juifs qui sont venus de diverses régions d'Europe fuyant toutes sortes de pogroms et ont combattu avec l'ANC. Il y a aussi eu des militants soit d'ascendance arabe ou asiatique qui sont venus combattre avec l'ANC. Et l'ANC a donc cette dette historique de cette implication de communautés venant de partout pour l'aider, n'est-ce pas, à abattre l'antre de l'apartheid. Ceci dit, l'ANC et le gouvernement sud-africain sur la scène internationale a une dimension maintenant de plus en plus forte. On l'a vu à la Cour de justice internationale sur l'affaire d'Israël et de Gaza. On a aussi vu comment les Sud-Africains ont très bien joué sur la scène africaine, car il y avait une candidature sud-africaine pour le poste de président de l'Assemblée générale des Nations Unies, et il y avait une candidature camerounaise. Les deux pays se sont entendus au sein de la famille africaine, et ce sont finalement les Camerounais qui vont avoir en la personne de M. Philemon Yan le prochain président de la 79e session. C'est dire que l'Afrique du Sud a su jouer un rôle en pleine solidarité. C'est donc dire que pour les pays du Sud, et même je dirais pour la communauté un peu plus globale, l'Afrique du Sud a un poids de plus en plus important. Mais comment est-ce que les leaders sud-africains vont réussir à transformer ce poids de plus en plus significatif sur la scène internationale à une action à l'intérieur du pays pour, n'est-ce pas, devenir le moteur, comme disait Niaka, d'une Afrique du Sud nouvelle, d'un pacte nouveau pour le développement et pour le bien-vivre et pour le vivre ensemble? Ça, c'est un véritable défi.
Will, en cas de gouvernement, de coalition, quelles alliances sont envisageables et quels compromis seront nécessaires?
Écoutez, c'est une excellente question. Il y a deux scénarios principaux aujourd'hui. Le scénario 1, c'est l'ANC est proche, très proche de 50%, donc disons 45 à 50%. Ils pourront, le cas échéant, faire des coalitions avec des petits partis, donc des partis qui ont très peu d'influence. En termes de chiffres, c'est à peu près 200, c'est la moitié des sièges qui est au Parlement. Donc il faut qu'ils fassent 201. Donc 45%, c'est qu'ils sont à peu près à 180 sièges, et ils peuvent effectivement, avec une trentaine de sièges, glaner la majorité. Donc ça, c'est le scénario premier. Maintenant, le deuxième scénario, que j'imagine le DIE ou IFF espère, donc les deux parties qui font suite, aujourd'hui c'était à peu près 24% de prédiction des votes pour le DIE et 10% pour l'IFF. Si maintenant l'ANC est à peu près à 40%, ils seront absolument obligés de faire une coalition avec les grands partis d'opposition que sont DIE, MK et IFF. Est-ce que c'est possible? Ça me paraît très ambitieux avec le MK. Parce que vous savez, hein, le MK, ce que ça signifie, le mot MK, hein, c'est le fer de lance que les guerriers à l'époque Zoulou avaient contre les colons. Et effectivement, Zuma, même s'il n'est pas éligible, a une influence extraordinaire encore sur la scène politique. Donc a priori, ça serait plutôt une coalition avec le DIE ou IFF de Julius Malema, qui est l'un des rares, par ailleurs, à défendre la cause des migrants sur le territoire sud-africain. Donc voilà les deux scénarios. Si on est proche de 50% côté ANC, on peut faire une coalition avec des petits partis, et donc des partis qui ont très peu d'influence en réalité. Si on est proche de 40%, on sera obligé de faire des alliances avec les grands partis, et là de repenser la politique.
Très rapidement, il n'y a qu'à 20 secondes, ce scrutin va-t-il redessiner le paysage politique sud-africain?
Pas véritablement, comme on le sait, mais je pense que c'est une learning curve pour Malema, pour qu'il arrive à s'ajuster, parce que attaquer l'héritage de Mandela n'est plus suffisant, et puis il est peut-être le temps de déconstruire l'idéologie, parce que les gens veulent promouvoir le marxisme. Il est peut-être temps de penser à Ubuntu comme étant la philosophie au sous de laquelle penser une nouvelle Afrique.
Sujet fort intéressant, on y reviendra. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Niaka Lagoké, Jean-Victor Nkolo et Will Gakop. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Un nouveau rendez-vous et jeudi prochain, Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Take care. Merci.